on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC pour discuter et débattre. C'est l'heure des GG, c'est l'heure des grandes gueules. Nous sommes ensemble durant 180 minutes, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Les grandes gueules, bonjour. Est-ce que les micros sont verts?
Oui, les micros sont verts.
Ah, d'accord. Sont, j'entendais rien dans mon oreillette.
On t'entend.
On nous entendra fort et clair
bonjour à tous, alors.
Midi. Fort et clair, Joël Dagosséry, coach de vie, bonjour.
Bonjour, laissez-moi passer deux petits bonjours, vraiment très importants. Non. Premier bonjour.
Les micros ne sont pas ouverts. Hein.
Ah, c'est pas ouvert?
Si,
personne
vas-y,
ne m'entend. D'accord. Alors, un petit bonjour à l'École Libre de Reims, qui m'a reçu il y a deux semaines, qui est une école post-bac. Et puis, un autre bonjour à l'EBM Business School aussi, qui m'a reçu, c'était mercredi.
Voilà
nous, je les embrasse.
Et la cellule psychologique, qui ensuite a reçu les étudiants en larmes.
Mais pas du tout, ils étaient ravis.
Bonjour, docteur Marty.
Bonjour à tous. Et puis, moi, un salut amical au SAMU 31 et à Julie Houdet, qui s'en occupe à Toulouse.
31 étant le département de
Haute-Garonne.
Voilà. Et monsieur Bruno Pomard est avec nous, ancien policier du RAID, maire de Belleflou dans l'Aude.
Bonjour Olivier, bonjour Alain Zelensky. Il s'habille comme Zelensky.
Oui, c'est vrai, c'est quoi ce petit plus kaki
J'ai mis un petit parce que je pars au front tout à l'heure, je suis chez le coiffeur.
Ah ouais, c'est
étonnant.
Donc bon. Rendez-vous tout à l'heure.
Bonjour, docteur Marty, bonjour.
Évite de lever le bras quand t'as un truc à qui.
Oui, t'as raison. Ouais. On sait jamais, ça pourrait être mal interprété.
L'interprétation pourrait être.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules, d'étudiants qui justement montent au front pour défendre les Palestiniens, défendre Gaza? C'est les étudiants Sciences Po.
Ils ont passé la nuit sur place.
Ouais, ils bloquent une partie de Sciences Po. Donc, est-ce
tu sais
que...
pourquoi ils bloquent? Parce qu'ils voudraient que Sciences Po coupe toutes ses relations avec Israël, avec des entreprises et institutions qui auraient un lien avec Israël.
Oui,
donc ça va très loin quand même.
Ils estiment qu'ils sont complices de l'oppression et du génocide.
Oui, le terme de génocide, alors, qui ne correspond à rien, mais qui est utilisé beaucoup par la France Insoumise, et ce terme est repris par les étudiants, ces étudiants-là en tout cas.
Et c'est l'école des futures élites.
Oui,
c'est
on en parlera tout à l'heure.
Gabriel Attal a fait Sciences Po par exemple.
On en parlera tout à l'heure à 10h.
Tout s'explique.
En attendant, allons-y pour notre premier sujet de discussion. On va reparler avec vous de la perception que vous avez eue de l'affaire Kenji Girac, ou plutôt de sa résolution, je dis bien de sa résolution, telle qu'elle a été présentée hier par le procureur de Mont-de-Marsan.
RMC, les grandes gueules.
Parce que l'affaire est maintenant résolue, c'est ce qu'a expliqué le procureur de Mont-de-Marsan hier, et l'entourage de Kenji Girac lui en veut. Parce que le procureur, dans les détails, ça a duré 90 minutes, la conférence de presse du procureur, son entourage estime qu'il s'est trop immiscé, il a donné trop de détails sur la vie privée, les addictions de Kenji Girac. Un exemple de ce qu'a dit le procureur.
De leur fille, il est hors de question qu'elle loupe un jour d'école. Il savait que c'était non négociable me concernant. Des tensions sont apparues également du fait d'une addiction à l'alcool. Elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues. Elle évoque effectivement une consommation de cocaïne à raison d'une à deux fois par semaine. Ce qui énerve fortement Soraya Miranda, qui lui explique que dans ces conditions, elle a décidé de partir. Il va falloir choisir que ce sera soit elle, soit lui, mais elle précisera que c'est effectivement le cas. Et qu'il lui avait déjà dit dans le passé qu'il allait se mettre une balle ou s'ouvrir la gorge.
Voilà, détails sur leur relation de couple, détails sur leur mode de vie, détails sur les addictions, le mal-être, les tentatives de suicide. C'est le procureur hier, le procureur de Mont-de-Marsan.
La conférence de presse du procureur, c'est une conférence fleuve, on n'avait jamais vu ça. Plus d'une heure de conférence de presse, où il est entré dans les détails pour finalement nous expliquer qu'il s'agissait d'un suicide. Donc finalement, la justice va s'arrêter. Alors, il y aura quand même une question sur l'arme, parce que là, on est assez quand même complaisant, pas complaisant, mais enfin, bon, il y a quand même la question de l'arme, comment il s'est procuré l'arme, d'où elle vient. Mais là, visiblement, comme c'est Kenji Girac, on va pas trop enquêter. Mais à part ça, alors la famille, dans un communiqué, regrette que le magistrat ait cru bon de divulguer ainsi l'intimité de la vie privée familiale de Kenji Girac, qui est un homme discret, etc. En même temps, ce même entourage ne voulait pas répondre au départ aux enquêteurs. Le procureur l'a dit, il y avait une omerta quand les pompiers sont arrivés, les gendarmes, personne parlait, on a caché l'arme, on a caché les vêtements. Donc la famille est peut-être pas très bien placée pour expliquer maintenant que le procureur a trop parlé. Mais peut-être que si la famille avait parlé dès le début, on n'aurait pas eu pendant 3 jours ce feuilleton interminable. Et puis, une dernière question, c'est peut-être que le procureur a fait ça aussi entre guillemets pour protéger et notamment Kenji Girac, mais surtout sa femme, parce que sa femme dans les réseaux sociaux, ça y est, elle était déjà condamnée, c'est elle qui avait tiré. Et donc je pense, moi qui fais ça, je sais pas ce que vous en pensez, pour protéger justement ce couple, pour qu'il puisse se reconstruire. Voilà, on dit tout, on met fin à toutes les autres rumeurs, et puis maintenant c'est le problème de ce couple et avec leur petite fille, puisqu'il y a une petite fille dans l'histoire qui a d'ailleurs assisté aux faits, et que la justice maintenant va passer à autre chose.
Alors il y a aussi ce que dit l'entourage, le fait qu'il dit avoir appelé Kenji Girac, ce qu'il n'aurait pas fait, ça c'est l'entourage qui le dit, et qu'il l'avait dit à la compagne, je vais entrer dans je vais un peu expliquer ce qui passait, mais il dit mais dans les grandes lignes. Or là, il est entré dans
la vie privée.
Alors il a après, fait c'est un peu parole contre parole. Est-ce que vous avez été gêné, Bruno? Je te voyais un peu tiqué.
Ben oui. C'est une question de déontologie, je dirais, oui. De la part de ce procureur. Je trouve qu'il a dépassé les bornes, comme on dit. Il aurait dû factuellement dire les éléments concernant cette enquête. Ça, c'est une chose. Revenir, comme l'a dit Olivier, sur l'arme. Il va falloir savoir d'où vient cette arme, ce qu'elle a pu faire. Un historique, et ça va être une véritable question, mais vraisemblablement ça n'a pas l'air de l'intéresser. Ce qui a l'air de l'intéresser par contre, c'est d'étaler la vie privée de Kenji Girac. Tout le monde s'en fout.
Bah non.
Non.
Il y a 3 jours que tout le monde.
Mais non, mais moi, je m'en fous de la vie privée de.
Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'on le dise publiquement.
Oui, qu'on le dise publiquement.
C'est une affaire privée.
Oui, mais donc ça ne regarde personne.
Non, mais moi, je pense qu'il faut.
On n'a pas besoin de l'étaler comme ça dans les médias.
Ouais. Je trouve que c'est pas. Au vu du comportement de nombreux procureurs, je pense qu'il faudra rajouter une phrase dans la loi. Quand on arrête quelqu'un, on lui dit tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous et pourra être déclaré publiquement à tout le monde. On devrait rajouter ça, quoi. Parce que. De plus en plus, on assiste à ça. Là, on a eu un roman fleuve avec quelqu'un qui, pendant 1h30, est rentré dans les moindres détails de la vie privée de Kenji, parce que c'est la victime dans l'histoire. Et je rappelle qu'il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu d'agression, il y a quelqu'un qui a retourné une arme contre lui.
Oui.
Bon, c'est des choses qui, malheureusement, quand on est médecin, sont rencontrées trop fréquemment. Des gens qui se suicident ou qui essayent de se suicider. Malheureusement, dans nos sociétés, on en voit très régulièrement. On ne fait pas tous ramdam autour. Là, il y a eu un énorme ramdam autour. On est rentré encore une fois dans le même détail. Mais alors, lui, il dit c'est pour protéger la famille, ou on explique ça en disant qu'il faut protéger la famille. Il pouvait très bien faire un communiqué. Hein.
Non, c'est.
Il faisait un communiqué en disant les éléments que nous avons en notre possession montrent qu'il ne peut s'agir d'une agression extérieure et que la victime a retourné l'arme contre lui. Il dit ne pas avoir voulu se tuer. Il pensait que le revolver était vide, que la culasse était vide, etc. Il peut très bien le mettre par écrit. Je veux dire, tout ça est du pipeau, quoi. Il a voulu vivre son quart d'heure warolien, quoi. Il veut se mettre en avant.
Ah, il s'est fait
pendant 1h30, il s'est fait plaisir, quoi.
Il s'est fait
Mais ce truc-là, quand même, ça dénote et ça montre bien.
Il a donné beaucoup de détails sur la blessure
des
détails.
Il a donné même des détails médicaux sur la blessure.
Mais oui, on veut savoir tout. Tout de suite.
C'est un mode de communication.
Et
ensuite, tu as les réseaux sociaux qui s'y mettent avec de la violence, du racisme, anti-gens du voyage, anti-gitans, etc. On l'a vécu, je veux dire, depuis 2 jours. On a vu une montée de ce truc-là avec des gens qui se sont emparés de l'affaire comme d'habitude. Je veux dire, il y a toutes les dérives de notre société dans cette affaire. Alors qu'on devrait être très discret, qu'il soit connu pas connu, on respecte,
oui,
on respecte
ces choses. Enfin,
manifestement aujourd'hui,
tu es naïf, Jérôme.
Je suis pas naïf. Aujourd'hui, on voit quoi? Aujourd'hui, on voit que la famille dit que c'est allé trop loin. Les agents disent c'est allé trop loin.
Ouais, enfin les noir, la famille, ouais. La famille, quoi. La famille qui ne disait rien. Moi j'aime bien, ouais. J'aime bien.
L'omerta,
voilà, ouais. Oui, on raconte une histoire. Qui est pas la, l'histoire, c'est que la famille au début, elle a caché la vérité. Ben oui. Et donc et c'est pour ça qu'on a déployé ses moyens. Mais ben si, oui. Pour ça, c'est pour ça que
mais
le procureur.
Ça, c'est deux choses différentes.
Je termine. C'est pour ça que le procureur avait ouvert une enquête pour homicide volontaire, donc assez large, parce que sincèrement, il y avait le mensonge. J'ai acheté l'arme dans une brocante, personne n'y croyait.
Ça, je suis d'accord.
Accidentellement, j'ai tiré. Vu la trajectoire de la balle, ça paraissait quand même. Étonnant. Donc c'est normal, le procureur au début, et tout était sur la table, il y avait des scénarios.
Bien sûr, mais ça je suis d'accord.
Et d'ailleurs, tout le monde s'est emballé là-dessus, et moi je pense que le procureur, il a voulu justement faire taire toutes les rumeurs, détailler précisément tous les scénarios pour dire voilà, ce n'est ni un meurtre, ni un règlement de compte, ni ce n'est pas sa femme, c'est un suicide. Alors
non, mais il a pas besoin de rester dans tous ces détails extérieurs à l'affaire.
Le procureur n'y croit pas, mais je trouve que c'est
il fallait une explication définitive.
Plus le bordel encore. Joël. Non, pas du tout, c'est fini.
Si, la preuve, parce qu'on parle.
On non, a parlé. Mais moi, je vais pas faire style. Moi, j'ai bien aimé la conférence. Parce que après, je suis un peu.
Voyeuriste.
Oui, un petit peu, j'aime bien. J'ai toujours aimé Gala, j'ai toujours aimé Voici, j'ai toujours aimé People Magazine, etc. Donc là, effectivement, on n'avait pas droit à une conférence d'un procureur, on avait plutôt droit à Voici, etc. Donc j'ai regardé ça comme je regarderais un épisode de Dynasty. Donc j'ai écouté des détails, etc. Donc j'ai bien aimé. Après, c'est sûr que quand on revient maintenant sur le côté déontologique de l'affaire, tu te poses des questions. Ouais. Enfin, tu te dis quand même. Enfin, comment c'est possible de donner autant de détails?
En quoi il enfreint la déontologie?
Non, mais
il a donné.
Tu vois bien.
Des détails.
C'est vrai qu'il a parlé de son alcoolisme. Non,
il
a
juste une addiction, c'est une maladie, je vous rappelle. Donc, il enfreint.
Il y a
un secret professionnel pour les procureurs pareil, quoi. Normalement, un procureur, il ne peut faire ce qu'il a fait que s'il y a un risque d'atteinte à l'ordre public. Dans cette affaire, il n'y a pas de risque d'atteinte à l'ordre public, quoi. Donc,
non, mais après, ça, c'est une dérive qu'on observe partout. Enfin, tu vois bien qu'il n'y a presque plus de secret judiciaire aux affaires. Ça n'existe plus.
L'instruction
n'existe absolument plus. À partir du moment où on arrête quelqu'un, il y a tout de suite des avocats en plateau, il y a tout de suite des gens pour t'expliquer ce qui se passe,
il y a
tout de suite des fuites dans la presse. Donc, quelque part.
C'est sûr que l'instruction n'existe plus.
Oui, ça n'existe plus. Donc, quelque part, est-ce que ce procureur qui me semblait assez jeune, enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de 60 ans, 70 ans.
C'est un ancien juge pour enfants.
Voilà, bon.
Ça explique d'ailleurs peut-être aussi pourquoi il s'est beaucoup attardé sur la famille, sur.
Qui est né quelque part dans cette culture, dans cette nouvelle culture judiciaire et du secret d'instruction qui n'existe plus. Peut-être qu'il l'a fait, mais pas à mal. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il l'a vraiment fait de bonne foi. Je ne lui prête pas de mauvaises intentions. Et d'ailleurs, je rejoins plutôt Olivier. On a entendu tellement de choses sur les gens du voyage, le secret, l'omerta. C'était presque une secte quand j'entendais certains commentaires. Donc, il est peut-être venu rétablir quelque part et dire, bon, il voulait peut-être dire c'est une histoire banale d'un couple qui va mal,
aussi la femme,
etc. Ouais, voilà, exactement.
En disant qu'il picole de plus en plus, qu'il se drogue, c'est pas utile de dire.
Ça
explique le drame.
Non, mais il voulait.
Est-ce que tu préfères que ce soit le procureur qui le dise,
voici,
ou tu préfères que ce soit écrit par Pepito 70 ou je ne sais quel pseudo journaliste sur Twitter en disant ben tout le monde sait que Kenji Girac prend de la cocaïne,
le procureur,
je l'ai su par un régisseur, etc. Moi, je préfère soit le procureur, et je vois pas en quoi il trahit la règle de déontologie. Il est le seul habilité à prendre la parole et donner des éléments d'enquête.
Oui.
Il vaut mieux que ce soit lui qui le fasse officiellement plutôt que ça sorte.
Ça c'est une histoire.
On sait d'une bonne source où on nous a dit que.
Non, mais il pouvait en dire moins.
À l'enquête quand même. Attention,
il pouvait en dire moins quand même.
Sa parole est importante. Oui. Il devrait se taire. Il s'appelle pas.
L'enquête, elle est terminée. L'enquête.
C'est pas fini. Et le calibre.
Je suis un peu choqué lorsque le procureur nous explique que finalement l'arme, bon, on s'en fiche, ça ne serait pas Kenji Girac. On irait au bout de l'enquête, on essaie de savoir d'où vient l'arme, qui lui a vendu, retrouver le vendeur, etc.
Je te rappelle que ce type d'arme, c'est les 45, c'est utilisé, comme on dit, dans le milieu des voyous, dans le tir sportif, etc. La plupart des gens ont des Glock, des HK, tout ce que tu veux, des armes traditionnelles pour faire du tir sportif. Là, le 45, il est connu dans le milieu. La voyou
calibre 11-43.
On peut se poser des questions.
Mais
cette arme, elle a été manipulée, elle a été cachée. Donc il y a quand même, même si moi j'ai entendu quand même des choses qui dépassaient un peu, c'était presque, je peux pas dire du racisme, mais c'était voilà, il y avait des descriptions des gens du voyage qui étaient limites.
Oui, par qui
mais non, mais sur les
mais
plateaux,
sur,
non mais sur,
ah,
les,
sur
plateaux,
les plateaux.
Ou même en
pas
ligne.
Par le procureur.
Non, pas par
oui,
le procureur,
voilà.
Mais même justement. En ligne. Même en ligne. Mais quand même, je veux dire, ils ont aussi donné un peu le bâton pour se faire battre. Enfin, quand tu prends une arme, tu la déplaces, tu la caches, comme si, en fait, il y avait eu un homicide quelque part. Quand vous filez à l'arrivée des gendarmes, quand on nous explique que les gendarmes ont essayé de poser des questions et les gens voulaient pas décliner leur identité. Donc, quelque part, je veux dire, ils ont aussi alimenté un peu la machine.
Je trouve que la famille, elle est gonflée, moi, dans cette histoire. Parce que, sincèrement, il pourrait y avoir des poursuites sur l'arme, il n'y en a pas. Donc, Engie s'en sort bien. Il pourrait y avoir aussi des poursuites sur le fait qu'il a pris le volant, ouais, alors qu'il était alcoolisé. Il n'y en a pas. Je suis désolé. Parce que, certes, c'est un homme malheureux, mais avec 2,5 g, tu prends le volant, tu peux faire du dégât. Donc, finalement, il s'en sort pas plus mal. Moi, je pense qu'il gêne le manager. Ce qui gêne le manager, c'est des histoires mercantiles. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on a un peu brisé l'image de Kenji Girac. Qui était le garçon un peu gendre idéal, propre sur lui, et que finalement, on se voit que ce type a des démons en lui, qu'il faut se soigner. Voilà, oui, mais je vois bien que l'image qu'on dégageait, donc, parce que c'est le manager qui réagit. Le manager, il dit merde, il va falloir raconter notre histoire. Bah oui, mais bon.
Dans la famille aussi, il réagit.
Oui, mais c'est le manager et la famille. Je pense que le manager dit, il faut quand même préserver l'image de Kenji Girac.
Eh bien, voyez, la discussion est lancée avec les grandes gueules. Le procureur en a-t-il trop dit, trop fait? Est-ce qu'il s'est trop exprimé sur la vie privée, les addictions? A-t-il donné trop de détails? C'est ce que déplore la famille, l'entourage de Kenji Girac. C'est ce que déplore aussi notre médecin, le policier, Jérôme Marty, Bruno Pomard. Non. Moi, j'apprécie au contraire cette transparence. C'est ce que nous dit.
Mais c'est un esprit malsain. Ça.
Joël Dagosséry. Ah bah venez en parler avec nous au 32-16.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur AMC, AMC Story, avec Bruno Pomard, Joël Dagosséry, avec Jérôme Marty, surtout avec vous au 32-16, on discute de la conférence de presse du procureur de la République de Mont-de-Marsan. Monsieur Janson, hier, c'était à propos de l'affaire Kenji Girac, où il a expliqué dans le détail l'enquête et ce qui s'était passé, une simulation de suicide. Et puis, en donnant beaucoup de précisions sur la vie privée, sur le mal-être, sur ce qui se passait dans le couple, sur la fillette, il a détaillé le film des événements, minute par minute, entrant même dans les détails de la blessure, expliquant comment la balle était entrée, comment elle était sortie, ce qu'elle avait blessé comme organe. C'est une première, quasiment. C'est la première fois qu'on entend autant de précisions. L'entourage de Kenji Girac est très gêné, même en colère. Est-ce qu'il en a trop dit, donné trop de précision? Frédéric Delaude, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'où dans l'Aude?
De Barbera, mais j'étais déjà intervenu. Il y avait Bruno Pomard quand j'étais intervenu.
C'est la Naudoise.
Vous avez votre chouchou, si je comprends bien. Donc, est-ce que vous avez été gêné ou pas, alors?
Ah, mais moi, attends, ras-le-bol, hein, Kenji. Hier, le procureur, il a eu son heure de gloire.
Voilà. Ouais.
Mais quand leur fiche la paix, ça arrive combien des suicides? Parce que tu t'entends. Enfin, il y en a. Le docteur l'a dit. Mais pourquoi il, moi, je pense à sa compagne. Sa compagne. Mais elle voulait être discrète. Là, maintenant, tout est étalé. Non, mais attendez. Moi, j'ai halluciné. Hein. D'accord, ok. Il a fait. Mais vous imaginez, il avait 17 ans quand c'est parti. Moi, je connais la communauté gitane. Dans l'Aude, il y en a beaucoup. Il est monté comme une flèche, mais il faut le gérer. Ça me fait bon. Moi, et que le bon qui fait une tentative de suicide, en sachant que dans la tentative de suicide, c'est interdit dans la communauté gitane, ils vont pas le dire. Enfin,
l'omerta.
C'est l'omerta.
C'est un tabou.
C'est l'omerta, on le sait. Bon, ben voilà. Mais qu'on doit foutre la paix maintenant. Enfin, bon, moi, ça m'a gonflé.
Ça vous a gonflé qu'il donne autant de détails sur ses addictions, sur ce qui se passait dans le couple.
Mais
en même temps, il était là pour expliquer ce qui s'était passé. Ça fait partie de l'explication, justement.
Non, il explique ce qui s'est passé factuellement. Il n'a pas besoin.
Factuellement, il avait bu, il avait pris de la cocaïne, il a réveillé sa femme et sa fille en pleine nuit. Ouais, il a pris
un calibre.
C'est ça, factuellement, ce qui s'est passé.
Il est allé trop loin.
Je suis d'accord avec le docteur. Hein. Franchement,
mais, je vois pas.
Merci.
C'est marrant parce que. C'est marrant. Si le procureur n'avait pas expliqué ce qui s'était passé, on lui aurait reproché en disant il le protège parce que c'est une star, etc.
Mais
là, il explique factuellement ce qui s'est passé et dit oh là là, le pauvre, on a expliqué qu'il buvait.
Olivier,
moi, je me je me mets aussi à la place.
J'ai pas dit le pauvre. J'ai pas dit le pauvre. J'ai dit que maintenant c'est bon. Ça va.
Bah c'est terminé.
Sur BFM, vous êtes en boucle. Ils sont en boucle là-dessus depuis une semaine. C'est bon, ça va. C'est bon,
BFM Story, ça encore.
Ils aiment bien la musique gitane.
Non mais elle a raison, mais on communiquait avec
les principaux éléments de l'affaire.
Non mais Frédéric, bien sûr qu'il y a plus grave. Seulement, une personnalité qui, quand il part en concert, remplit des salles de 5000 personnes. Une personnalité qui dès qu'il se déplace, crée des attroupements. Une personnalité qui vend plus d'1 million de disques. C'est une personnalité publique. On la retrouve avec une balle de 11,43 dans le bide. On est quand même, voilà, on s'interroge, on se demande ce qui s'est passé, Frédéric.
Frédéric, vous avez suivi la conférence?
Comment?
Vous avez suivi la conférence?
Oui, enfin, à un moment
alors,
donné.
Attendons, moi j'adore parce que les mêmes qui disent « Ah, oh, il en a trop fait », vous allez voir, record d'audience hier, tout le monde a suivi la conférence du procureur.
Mais c'est pas une émission de raisonner.
Arrêtez,
c'est pas une émission.
Arrêtez,
parle comme un journaliste, c'est normal.
Mais
c'est parfait.
Non, mais Olivier, est devant leur télé.
Olivier, c'est parfait parce que là, tu nous donnes raison.
C'est des faux culs.
C'est-à-dire, c'est parfait parce que tu nous donnes raison. Parce que si, moi je dis depuis le début, il a eu son quart d'heure waroulien, là tu me parles d'audimat, donc c'est très bien.
Oui, mais je te parle de gens.
Ça veut dire que les gens veulent savoir.
Mais oui, Joël,
je te dis que ça dénote les dérives de la société.
C'est pas les dérives de la société, Joël.
Moi je suis sûr qu'il y avait plein de gens comme moi qui ont regardé. Bien sûr qu'on a ce truc de déontologie à la tête. Il y a plein de gens qui ont regardé comme moi et je suis sûr qu'Olivier a raison. Il y a un carton d'audience parce qu'en fait, on voulait ça. En fait, on n'a pas compris dès le début. Il a menti au début. Il a menti.
Personne
il a dit
que c'était par erreur.
Qu'il avait manipulé les larmes et tout. Donc en fait, tout de suite, on rentre dans quelque chose de mystérieux. Et donc quelque part, le procureur, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu élucider le mystère.
Donc on l'étale sur la place publique.
Mais non, mais je ne dis pas non.
C'est normal, les journalistes vont nous dire, évidemment.
Mais tout
évidemment.
Mais dès le début, tout est sur la place publique. Je ne comprends pas ce que tu racontes.
Non.
Mais
non,
c'est une personnalité publique. C'est comme ça.
La plupart des gens, hormis toi, tu parles dans ce cas parce que tu es aussi public.
Mais oui.
Mais la plupart des gens qui, par exemple, sur Twitter, s'en vont nous dire, mais c'est une personnalité publique et tout. Ils le font derrière Pétaluc 35 et machin. Ils ne mettent même pas leur identité.
Il
se plaint, mais lui il est public.
Parler le procureur.
Il n'a pas signé.
Alors, Frédéric,
toute ma vie sera connue. Tu sais très bien qu'il y a une différence entre ce que montre une personnalité publique et sa vie privée.
Sincèrement, je pense que s'il avait dit tout de suite la vérité, l'histoire serait
formalée. Oui, ça se serait calmé. Mais
il était blessé, il était mourant.
Il y a un aspect dans l'affaire auquel on ne pense pas. C'est à sa femme. Parce que Frédéric disait, oui, il faudrait penser à sa femme, Soraya. Moi, j'y pense, et moi, ce que je vois du comportement de monsieur Girac, il est quand même assez toxique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui menace sa femme de suicide. Enfin, la menace de se suicider si elle le quitte. Mais ça, c'est un truc, on ne se rend pas compte, mais c'est un truc que vivent beaucoup de femmes de crainte. C'est soit je te tue ou soit je me tue.
Et
c'est un chantage. Exactement.
C'est un chantage.
C'est un chantage sur les femmes lorsqu'elles veulent partir. Mm-hmm. Et là, on n'en parle pas du tout de ça. On parle juste de
l'étaler
sur la place publique.
Et tu as raison.
Mais je suis désolée. Il y a un vrai problème.
À côté de sa fille de 3 ans.
Mais exactement,
quand même.
Et donc,
on explique que c'est rien, c'est normal qu'un type ait une arme. Et qui menace de se flinguer devant une
donc il y a un vrai problème chez ce monsieur. Il y a un problème aussi que les femmes vivent souvent, c'est cette menace d'être soit tuée ou soit de se tuer si on part.
Moi, je veux te dire, j'aimerais bien entendre les enquêteurs policiers sur l'affaire de l'arme. Je suis obstiné par ça, moi. J'aimerais bien connaître l'histoire de cette arme. Ça m'intéresserait.
Ah, bah, tu vois.
Ton ami procureur.
Voilà,
c'est
le point de
la question. Il ne l'a pas stipulé.
Après, il s'en fout complètement. Il préfère dire que l'autrement de qui permet un narcissique ou autre, oui, c'est condamnable. Et oui, si c'est ce qu'il a fait et qu'il l'a fait plusieurs fois, c'est condamnable. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Est-ce qu'il y a une plainte ou non? Est-ce qu'il peut y avoir une plainte?
C'est difficile dans cette communauté, visiblement.
Mais là, on est au tout début de quelque chose qui s'est passé. Moi, ce que je reproche.
C'est difficile de parler dans cette communauté. Oui. Peut-être que sa femme en a ras-le-bol, mais qu'elle se sent un peu prisonnière aussi. C'est ce qu'elle a dit au procureur. Oui. Bah, moi, j'adore parce que on est là uniquement sur Kenji, mais on oublie qu'il a une femme et qu'il a assisté à un truc quand même particulièrement choquant et violent avec sa fille qui a assisté à ça.
Tu nous as dit toi-même que
sa femme peut-être aussi, elle a dit libérez-moi de tout ça en fait aussi.
Oui, enfin, je ne pense pas que sa femme ait demandé à ce que le procureur étale pendant 1h30 les moindres détails de leur couple. Je ne crois pas.
Rapport.
Je ne pense pas.
Quand tu es une femme et que quelque part tu ne peux rien dire, parce qu'elle est dans une communauté aussi qui est assez fermée, etc., donc elle ne peut pas parler.
Ses propres codes.
Et quelque part. des fois, ça te fait du bien quand quelqu'un d'autre raconte ton calvaire. Dis, mais en fait, voilà ce qui se passait pour elle. Voilà ce qui... Faut pas croire que forcément, c'est à son désavantage. Quelquefois, ça te fait vraiment du bien que quelqu'un vienne dire, mais en fait, cette dame, elle vivait quelque chose de difficile.
Joël a raison, il y a un point important aussi. Qu'est-ce qui est dit? L'un des points de tiraillement dans le couple assez diplômant, c'est la scolarisation de la petite.
Exactement, exactement.
C'est le mode de vie, la scolarisation de la petite qui a envenimé les relations dans le couple. Je veux dire, on en est quand même arrivé à un type qui achète une arme 3 jours avant, comme le dit Bruno, un calibre 11-43 qui n'est pas courant et qui ensuite menace de se tuer ou autre. Parce que là, ce que dit le procureur, ce sont les propos de l'un et de l'autre. Oui. Donc c'est sur la foi de ce que eux lui ont dit. Est-ce qu'ils lui ont dit la vérité? On le souhaite derrière, mais c'est aller loin au milieu de la nuit avec docteur, un homme qui prend le volant en état d'ébriété aussi ensuite, qui reprend sa voiture, qui veut partir, qui se met en danger, qui peut mettre en danger aussi autrui sur la route. Linda veut en discuter avec les GG. Bonjour Linda.
Bonjour les GG.
Qu'est-ce que vous en dites vous Linda?
En fait, moi, bon d'abord, je suis un peu comme Olivier, ça me fait beaucoup rigoler les gens qui appellent pour dire qu'en fait, ils sont outrés, ça les a saoulés, mais tout le monde a regardé. Moi, personnellement, j'étais en train de travailler, j'ai eu le feedback le soir, parce qu'effectivement, je vous cache pas que lundi, quand j'ai vu ça, je ne suis pas forcément Kenji Girac, je suis pas forcément le public, mais en tout cas, ça m'a peiné, parce que je me suis dit, purée, mais qu'est-ce qu'il a pu se passer pour que le mec, il soit entre la vie et la mort à 30 ans. En revanche, quand après on creuse, moi, je pars du principe qu'hier, c'est pas de l'étalage, en fait. Moi, je me mets à la place de cette maman, Soraya, enfin de sa femme. Mmh. Et moi, j'ai un membre de ma famille très très proche qui est alcoolique depuis que je suis toute petite. Et c'est vraiment l'être le plus cher de ma vie, donc un de mes parents. Quand vous avez ça dans votre quotidien, à gérer, à vivre, c'est pas toujours facile. Et quand, qui plus est, vous êtes dans une communauté où peut-être qu'elle, elle subit le fait de devoir ne pas parler. Parce que c'est super de dire, il y a l'omerta, tout le monde se soutient, mais peut-être qu'elle, en fait, ça la saoule complètement de devoir fermer sa gueule, de voir que le mec, en fait, il est applaudi tous les jours sur les plateaux, les trucs encensés par des petites filles, des enfants, alors qu'il gère même pas sa petite fille chez lui de 3 ans. En fait, à un moment donné, faut juste, si cet ancien procureur est juge pour enfants, honnêtement, moi, je l'applaudis des deux mains.
Moi, je pense que ça explique
parce
aussi.
Parce que juste, il a peut-être sauvé, peut-être que Kenji Girac, il va se mettre un coup de pied au cul, et ses managers, et sa famille vont lui dire maintenant, tu te ressaisis, gars. Parce qu'en fait, il y a ta petite fille de 3 ans qui te regarde, t'as voulu faire le kéké à menacer ta femme qui a envie de se tirer depuis 2 ans, et là, en fait, il va falloir que tu retrouves les manches, et que t'ailles te faire se soigner. Donc, à un moment donné, si les gens veulent voir en ça du voyeurisme, qu'ils le voient. Mais peut-être que cette femme, elle va pouvoir, et sa petite fille, vont pouvoir s'en sortir parce qu'il y a un procureur un jour qui a eu les couilles de parler et de dire voilà ce qui se passe. Et Kenji Girac, il a de la coke et il était à 2,5 grammes. En fait, c'est ça.
Bravo, Linda. Je suis tout à fait d'accord.
Donc, c'est hyper important, ça. Faut arrêter de voir le voyeurisme partout.
Je note que vous nous affirmez, donc, que la femme de Kenji Girac voulait partir depuis 2 ans. Moi, j'en sais rien.
Elle a quand même dit, madame, quoi.
Donc, ça va très loin.
Ce qui a déclenché ça, c'est que.
Je vous rappelle que c'est pas notre vie, c'est la leur, quoi. Avec tous les problèmes qu'il peut y avoir autour.
Mais tu sais pas ce que c'est de vivre dans le secret d'une personne que tout le monde admire à l'extérieur.
Toi, tu sais exactement les démons
qui animent cette personne.
En l'occurrence, quand vous êtes une personne publique et que vous faites une tentative de suicide avec une arme où vous ne savez, où vous ne dites pas la vérité dès le départ et que vous tirez dessus, vous pensez que jamais ça va sortir? Vous pensez que personne ne va jamais parler?
Moi, je trouve que sincèrement, il y a de la complaisance, peut-être parce que c'est lui la star, sur ce qui s'est passé, et on oublie la petite fille qui a vécu quand même une soirée infernale et qui sera traumatisée. J'espère qu'elle sera suivie parce que elle a vu quand même son père péter un câble, etc. Et cette femme qui, parce que l'arme, il aurait pu très bien la retourner. Enfin, à un moment donné, on ne sait pas ce qui va se passer.
Moi, ce que je dis, si vous voulez, c'est que malheureusement, encore une fois, je le disais en propos liminaire tout à l'heure, malheureusement, dans ma vie de médecin, j'ai eu à vivre ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Il n'y a pas d'enquête comme ça avec un procureur qui dit tout quand la personne qui
dame, etc.
Des anonymes.
Oui, mais ça n'excuse pas tout, je suis désolé.
La voix officielle, c'est le proc.
Allons, voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est des cas tellement complexes. Entre le raptus,
vous minimisez
qui
tout,
fait que quelqu'un passe à l'acte sans avoir prémédité rien, tout d'un coup, bam, ça n'a pas été prévu, il n'y a pas eu de lettre, il n'y a rien, on ne sait pas pourquoi il s'est suicidé, on ne le saura jamais.
Mais bien sûr,
régulièrement.
Les choses, il a expliqué.
Je ne parle pas de lui, là, je te dis les différents cas que tu peux rencontrer. entre celui qui prémédite son geste, entre celui qui peut être violent, pas violent, etc., entre celui qui est bourré à ce moment-là et qui fait le geste. Là, il dit qu'il voulait pas le faire, mais il l'a fait. Est-ce qu'il voulait suicider?
Il aurait pu.
S'il voulait suicider, en l'occurrence, c'est un miraculé. Il aurait pu mourir 100 fois en ce qui rentre dans le cœur. Mais
j'ai juste une chose à vous dire. Je comprends tout ce que vous dites, docteur Marty, et il y a aucun souci. La seule chose, c'est que maintenant, il a fait cette, elle vit ça, c'est son quotidien. D'accord? Tous les jours, elle se réveille, peut-être que le mec, il rentre à chaque fois de tournée, il est bourré. Elle a une petite fille de 3 ans. Moi, je suis petite fille d'une personne qui est alcoolique. C'est insupportable. D'accord?
Mais on n'a pas besoin de l'étaler dans le public. Excusez-moi,
j'entends ce que vous.
Mais peut-être que elle a eu besoin. Elle pouvait pas parler, à ce qui paraît, de ce que moi j'ai entendu sur BFM notamment. Quand les ambulanciers ou les pompiers sont arrivés, on dirait qu'elle a cette pression un peu familiale de pas pouvoir vraiment dire. Alors, il faut mesurer ses mots, peser ses mots. Et bien, peut-être que le procureur, il a sondé ça et qu'il a estimé qu'à un moment donné, faut mettre les pieds dans le plat. Voilà, et peut-être qu'il ne l'aurait pas fait avec un joueur de foot, quelqu'un d'autre, peu importe. Mais peut-être que là, c'est trop grave.
Il a parlé de deux choses, d'omerta. L'omerta que les pompiers tout de suite ont rencontré et les gendarmes aussi et le tabou du suicide dans cette communauté.
Donc la voix officielle, là, vous banalisez totalement la voix officielle.
Moi c'est mais pas non, pas c'est pas ça,
parce
mais
que peut, un procureur n'a pas à s'étaler comme ça point. Sur le fond, je suis d'accord avec vous.
Tu te souviens du procureur Molins quand il racontait point par point tout ce qui se passait, ça durait des plombes au Bataclan etc. On n'a pas reproché au procureur Molins d'avoir détaillé
comparer une affaire de terrorisme et quelqu'un qui fait une
tentative de suicide. C'est du droit commun, là, il y a autre chose.
C'est un ancien juge pour enfants. Il a peut-être une certaine sensibilité.
C'est les assistantes sociales et compagnie qui doivent s'occuper de ça. Ça n'a pas besoin d'être sur la place publique.
Ce qui se joue derrière, et moi je rejoins complètement le témoignage de Linda, je crois que lorsque tu ne peux pas parler, quand quelqu'un est ton porte-parole ou ton porte-voix et dit sur la place publique ce que tu ne peux pas dire, quelquefois ça te soulage.
Alors,
et donc je
Corinne,
crois que peut-être qu'il l'a fait pour ça.
Un dernier mot avec Corinne. Bonjour Corinne.
Oui, bonjour.
Agent administratif de Seine-et-Marne. Choqué ou vous êtes sur la ligne Linda, Joël, dites-moi.
Alors je comprends ce qui vient d'être dit, mais je suis choquée parce que moi j'ai eu l'occasion de travailler dans un hôpital. On avait un secteur fermé avec des personnes qui avaient des troubles d'ordre psychiatrique, qui avaient des problèmes suite aux addictions. Et ce qui s'est passé hier avec le procureur est juste lamentable. Et je trouve aussi que ce qui se passe sur ce plateau aussi avec des gens qui font des conjonctures, qui font la personne qui vient de parler aussi, qui projette leur situation sur l'affaire de Kevin Girac. Moi, ça me met hors de moi parce que on a un homme qui a souffert. Toute la famille en souffre. C'est un fait, c'est évident. Ce que le procureur a fait n'a rien à voir avec une conférence de presse en lien avec quelqu'un qui a retourné une arme contre lui. Soit c'était parce qu'il était ancien juge pour enfants. Là, je trouve qu'au niveau pédagogie, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Au niveau de déontologie aussi. Là, il a peut-être mené un combat personnel, mais ça n'a rien à voir avec une conférence de presse où on va expliquer que quelqu'un a retourné l'arme contre lui. Là, je sais qu'il est cocaïnomane, qu'il a pleuré, qu'il est alcoolique, enfin, des choses.
C'est pour expliquer le geste.
Qu'il est rentré, qu'il est sorti, ça ne nous regarde pas.
Pour expliquer le geste. C'est parce qu'il y avait l'enquête ouverte.
Pardon, mais. Parce qu'après, je vais partir.
Vous oubliez, pardon, mais Corinne, vous oubliez qu'il y a une enquête qui est ouverte. Donc, de toute façon, il faut bien.
L'enquête ne vous regarde pas. Laissez-moi terminer. L'enquête ne vous regarde pas. L'enquête ne regarde pas l'ensemble des Français. Et je me mets à la place de n'importe qui, parce que n'importe qui peut finir en hôpital psychiatrique. Laissez-moi finir, simplement. N'importe qui peut finir dans cette situation. N'importe qui peut avoir quelqu'un qui a des problèmes d'alcoolisme. N'importe qui peut avoir des problèmes d'addiction. Et voir étaler sur la place publique tout ce qui a été dit.
Sa maladie.
Sa maladie, sa souffrance, le fait qu'il ait peur que sa femme parte, qu'il s'est mis à pleurer. En quoi ça vous regarde? Moi, je vais vous dire une chose. Ce serait quelque chose comme Palmade, je ne sais plus quoi, où il y a des victimes. La famille des victimes, les familles veulent savoir. C'est normal, c'est des détails. Un homme politique, c'est normal, parce qu'il représente la France. Un citoyen, ça peut être, c'est indigérable, ça peut être le boucher du coin, le boulanger. Personne n'a à venir sur les chaînes. Parce que moi, j'étais en vacances, je suis tombée dessus, parce que la dame qui me parlait dit, tout le monde regardait, pas du tout. Je suis tombée dessus, que lui était malsaine peut-être, j'ai regardé, ensuite j'ai changé de chaîne. Parce que lorsqu'il a commencé à dire qu'il a pleuré, qu'il est alcoolique, qu'il est sorti, qu'il est rentré, qu'il ne voulait pas que sa femme parte, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Dites-nous juste, voilà ce qui s'est passé, restez factuel. Ensuite, que son épouse, parce qu'il y a un vrai sujet, que son épouse avec son enfant, il y a le secret de l'omerta. Qu'il souligne ça, qu'il dénonce là, ça c'est normal avec les gens du voyage, parce qu'on est parti aussi sur des choses, on a l'impression que c'était des gitans, je ne sais plus quoi, ils volaient les poules, ils tuaient les gens, ou wow, alors c'est sa femme, son conjugal, on est parti sur n'importe quoi. Qu'il clarifie ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais qu'il est rentré dans tous ces détails, ce n'était pas nécessaire.
Oui.
Et M. Kenji Girac, qui doit écouter, et sa famille, il a été humilié. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur ça. Moi, j'ai vu ça comme une humiliation. C'était pas qu'on n'expliquait pas ce qui s'est passé. On dégrade un homme.
On brise l'image d'un homme qu'on voudrait garder.
Peut-être parce qu'effectivement, voilà, c'est pas bien. Voilà.
Vous préférez laisser Corinne, vous préférez laisser courir les rumeurs à ce moment-là?
Mais quelle rumeur? Ça ne me regarde pas ça. Il n'y avait pas de rumeur. La seule chose à dire, c'était est-ce qu'il avait été. Est-ce que quelqu'un avait tiré sur lui? Non.
Eh ben non, non, non. Et le procureur a expliqué.
Non.
Le procureur a expliqué pourquoi il s'en était arrivé là. C'est tout. Ça a été juste factuel.
Il a donné le film des événements.
Il a dit un peu plus. Il a dit
beaucoup plus.
Corinne, on va voir ce qu'on en dit. On a vraiment eu des points de vue radicalement différents avec des prises de position tranchées, que ce soit vous, que ce soit Linda, notamment. Kenji Girac, le procureur en a-t-il trop dit? Voir quelle est votre perception? Là, ça fait 25 minutes qu'on en discute ensemble. Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux? Non, il n'en a pas trop fait, il n'en a pas trop dit, à plus de 60%. Et puisque là, vous nous interrogiez là sur tout ça, c'est pour l'audience et pour l'audimat, avec Olivier, on a les audiences à 11h20. Vous savez quoi? Tout à l'heure, on vous donnera précisément quelles étaient l'audience.
Tous les gens qui ont été choqués, mais qui étaient devant l'écran.
Des chaînes info.
Mais
ça m'étonne pas, moi.
Le voyeurisme, ça s'appelle.
Mais oui,
monsieur.
Mais
on vous dira quels étaient les pics d'audience au moment de la conférence.
Si je dis demain, à 10h15, en direct, quelqu'un se tirera une balle dans la tête, je vais faire 100%
de ça. Mais oui. Vraiment, t'es insultant pour le procureur.
Tiens. Allez, dans un instant, on s'enfonce.
On va finir en garde à vue.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story aujourd'hui. Nos trois GG, Joël Dagosséry, coach de vie, le docteur Jérôme Marty, puis nous sommes avec Bruno Pomard, l'ancien policier du RAID. C'est l'heure du On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec Anaïs Sainz. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Retour à l'envoyeur. Des écoles du Tarn ont décidé de ne pas distribuer le livret JO à leurs élèves. Vous savez, ce livret qui avait jasé avec cette pièce de 2 euros en hommage aux Jeux de Paris. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Bruno?
Non, bah, pas du tout.
Jérôme?
Non, s'en fout pas.
Et Joël?
S'en fout.
Coût total de l'opération, 16 millions d'euros, l'équivalent de 300 postes d'enseignants chaque année.
Ouais, bah,
c'est pour
facile,
ça que ça râle chez les enseignants.
Oui, c'est facile. Oui.
Ça ne passe pas. Certains ont donc rendu les livrets aux services départementaux de l'éducation nationale. Donc, Joël, tu t'en fous? Pourquoi tu t'en fous pas?
Ah, je m'en fous.
Mon cher Bruno.
Je m'en fous pas parce que d'abord l'argent dont tu parles, Anaïs, c'est l'argent du COJO, c'est pas l'argent de l'éducation nationale. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est un moment de commémoration, je crois que c'est important, même si ça représente quand même de l'argent. Et je trouve que c'est pathétique, encore une fois, de faire de la politique. Parce que ce que font les profs là, c'est de la politique politicienne de base, en disant « Ah, mais il nous manque des profs, il nous manque des salaires, il nous manque des... » Ça n'a rien à voir. On est juste là, dans un moment de commémoration pour les Jeux Olympiques. Donc, je trouve ça complètement con de vouloir refuser cette pièce de 2 euros pour les gamins.
Jérôme.
C'est très occitant, en fait, puisque c'est le Tarn.
L'Ariège
aussi. Le Tarn et Garonne, l'Ariège.
C'est chez toi, ça.
Ils sont en train de mettre le feu à l'Occitanie, en fait. Et quand on met le feu à l'Occitanie, on met le feu à la France.
Terre de gauche.
Donc, on ne peut pas s'en foutre. Les luttes partent d'Occitanie. Donc, sinon,
T'es médecin de gauche, toi.
Après cette boutade, non, je te rejoins. On n'a pas instrumentalisé ce truc. On cherche à faire plaisir aux gosses et ça permet de leur parler des Jeux Olympiques,
oui,
de ce que c'est, etc.
Tout à fait. Ils sont pénalisés.
Oui, c'est les gosses qui sont pénalisés en lycée.
Les mouflés qui auraient été contents d'avoir la pièce.
C'est un peu gênant.
Les enfants sont pris en otage dans des règlements de compte politiques.
Et comme tu dis, surtout, c'est pas les mêmes enveloppes, donc ça n'a strictement rien à voir avec l'argent qu'on met dans l'éducation nationale. Donc bon.
Là, explique aussi que ça pose des problèmes de sécurité parce qu'on stocke beaucoup d'argent.
On peut imaginer qu'on a raqué 100 pour faire 200 euros.
Et pendant ce temps, les adultes, eux, ils revendent sur le bon coin. C'est beaucoup mieux.
Oui, c'est vrai. Rachida Dati reçoit la chienne de Gabriel Attal pour un apéritif canin dans sa mairie du 7e arrondissement de Paris. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, mon cher Bruno?
Je m'en fous complètement.
Ah bon, Jérôme?
Rien à cirer.
Joël.
S'en fout pas.
Alors,
Joël s'en fout pas. Tout c'est ce une... people, Joël.
Vous savez, elle adore. C'est elle carrément une garden party, hein, d'un genre particulier qui s'est tenue mercredi soir donc, dans les jardins de la mairie du 7e. Rachida Dati a reçu autour d'elle les chiens des habitants de sa circonscription et a eu le droit à la visite du Chocho. Vous savez, cette, cette race de chiens rendue célèbre grâce à la femelle donc, la femelle chienne de Gabriel Attal, pardon, adoptée récemment par Gabriel Attal.
On n'a rien compris, Anaïs.
La chienne.
En gros, il y avait la chienne de Gabriel Attal.
Alors attends,
c'est ça.
Donc il y a la garden party dans les jardins de la mairie du 7e. Il y a les chiens des habitants de la circonscription. Et il y a eu le chocho de Gabriel Attal. Il y a la chienne de Gabriel Attal.
Mais oui,
en laisse.
Alors,
Joël. Pourquoi tu t'en fous pas?
Non, mais c'est tellement 7e arrondissement, c'est oui, tellement chien à ta mémère.
C'est sur Paris.
Non, mais j'aime bien Rachida Dati, c'est son côté un peu décalé.
Elle est mère du 7e.
Parce qu'en fait, on l'avait accusée, je crois, d'avoir envoyé un texto en disant qu'elle avait égorgé son chien. Transformé le chien de Gabriel Attal en kebab. En kebab, c'est ça.
C'est une vanne.
Et du coup, elle a récupéré ça, elle en a fait un petit événement. Ça doit être bien.
Comment il s'appelle ce chien?
J'aimerais bien être invitée à ce genre de.
On a le nom du chien.
Lilo.
Non. Mais alors, moi, je ne savais pas qu'on pouvait organiser des apéritifs canins.
La prochaine fois, j'espère que ton chien sera invité.
Et oui, mais je suis pas dans cet arrondissement-là.
Oui, mais on peut peut-être faire une exception.
Dans le cadre d'un rapprochement.
Moi, je trouve que ça serait bien que tous les chiens de Paris se retrouvent.
On pourrait faire une émission.
Il y a déjà tous les rats.
Moi, l'année dernière, j'ai fait la marche du Tekel, je vous le rappelle, sur les quais parisiens.
Oh, le people.
Ma femme et ma fille m'avaient initié, m'ont dit viens, on y va. C'est la marche. On était 1200.
Mais t'avais pas trouvé.
Exactement. Ouais. Un petit dernier.
Alors c'est moins marrant, le retour de la coqueluche en France. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jérôme?
Non, on s'en fout pas évidemment.
Joël, on s'en fout. Bruno.
Ouais, je m'en fous complètement.
Non, mais voilà. Les quatre coqueluches en recrudescence. Santé publique France sonne l'alerte et rappelle l'importance de la vaccination pour protéger les personnes à risque contre donc cette infection bactérienne très très contagieuse à l'approche des
coqueluches et rougeole, notamment dans le département d'Indre-et-Loire, où il y a un vrai pic de contamination.
Qui sont des maladies extrêmement contagieuses. Dans la coqueluche, par voie aéroportée, une personne en contamine 15. Maladies qui peuvent être très dangereuses, notamment pour les nourrissons, notamment pour les personnes immunodéprimées. Maladie qui peut aller impacter des gens qui ont des pathologies respiratoires, insuffisance cardiaque, etc. Et dont on voit effectivement qu'il y a une recrudescence, alors moins importante que dans d'autres pays européens, mais une recrudescence quand même. Et c'est une alerte qu'il faut lancer parce que il faut se vacciner. C'est des maladies qui ont été quasi éradiquées ou en tout cas maintenues à un taux très bas par la vaccination. Et là, on assiste. C'est classiquement, tu as une phase d'incubation 10-15 jours, puis ensuite, tu as cette toux avec le stridor laryngé, c'est-à-dire tu as une toux qui est incoercible, et puis tu reprends comme ça. Et c'est comme ça qu'on le reconnaît chez le gosse, quand tu as le gosse qui... Après, à chaque fois, à la fin de la toux. Donc, ça se diagnostique très bien avec un PCR où on va rechercher le Bordetella pertussis, qui est la bactérie de la maladie.
Pensez à la vaccination.
Et ensuite, sous macrolide, avec des antibiotiques, on arrive à le soigner. Mais si tu as contaminé des gens qui sont fragiles autour, c'est toujours le même problème. Hein, si tu vaccines par altruisme. Hein. Et donc c'est là où on voit qu'il y a
des les autres.
Voilà. Tiens, puisque on dit pensez à vous vacciner, moi je vais vous dire pensez à envoyer chance par SMS au 732-16, les amis. Vous avez 5 minutes devant vous pour peut-être gagner 26 000 euros. Nous sommes le vendredi 26 et vous avez la possibilité de gagner 26 000 euros. Tout à l'heure, on aura un tableau avec 13 tickets à gratter qui iront de 13 à 13 000 euros, mais il y aura des tickets spéciaux avec peut-être 26 000 euros. Vous m'envoyez chance par SMS au 732-16 et rendez-vous tout à l'heure à 11h20.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.